Bonjour à tous, bon dimanche. Nous sommes au 23e dimanche après la Pentecôte et nous nous approchons de la fin de l'année liturgique. C'est un des dimanches où on a encore les miracles de Jésus, ce grand miracle qui se perd à Capharnaüm, dans la synagogue de Capharnaüm, où le chef de la synagogue a sa fille malade et il s'incline devant Jésus et il lui signale que sa fille est mourante et il a déjà la foi en Jésus parce que les miracles que Jésus en a fait beaucoup déjà à Capharnaüm et donc le Seigneur ressuscite cette fille qui est morte dont Jésus dit qu'elle est endormie, donc c'est pas Jésus qui fait un mensonge, donc dans l'ordre réel des choses elle n'est qu'endormie parce que elle est dans le transit qui conduit, l'âme ne meurt pas et donc il annonce qu'elle est endormie et que en attendant la résurrection, comme tous les gens pour lesquels nous prions, en réalité, on dit, et sont les gens qui sont endormis dans le Seigneur, donc l'âme, elle ne périt pas, et même si parfois on va, comme je l'ai fait hier pour porter le dernier sacrement à des gens dans ces endroits où on les aide à passer de l'autre côté, les gens... En réalité, les âmes sont toujours vivantes et Jésus ramène cette jeune fille à la vie, ce qui fait grand bruit dans la région, évidemment, vous imaginez, et cette dame aussi qui a fait des pertes de sang. Donc c'est toujours notre religion qui est la religion du miracle. Jésus a attesté de sa divinité par ses miracles. Il ne le faisait pas pour faire des exploits et pour étonner seulement les gens, il le faisait pour attester sa filiation divine, car c'est personne ne peut ressusciter les morts s'il n'est pas vraiment dans une grâce tout à fait spéciale de Dieu. Et Jésus nous dit « Je suis la résurrection et la vie », le dit par ailleurs Jésus. Donc on a cette certitude des témoignages qui sont faits, des miracles que Jésus accomplit pour les gens qui l'invoquent avec foi. Et Jésus le dit bien, ta foi t'a sauvé, et si Jésus guérit la fille du chef de la synagogue, c'est qu'il est déjà enclin à suivre le Christ, et il sait que le Christ a cette capacité de guérir, donc il reconnaît qui est sa main qui bénit et qui s'approche de cette jeune fille, c'est la main qui donne la vie, donc nous devons nous-mêmes rester fidèles la Sainte Providence qui, si on l'invoque, ne fait pas toujours notre sainte volonté, comme on le pense souvent, que le Seigneur pourrait toujours faire des efforts. Parfois, il y a des choses qui, dans notre vie, nous contrarient, mais ce sont les épreuves du monde. Le Seigneur nous a laissé dans le monde et tout ce qui se fait dans l'espace-temps a été fait par Dieu. On dit parfois... Le monde est mal organisé. Non, le monde a été très bien organisé. Si Dieu n'avait fait de nous, n'avait pas créé l'espace-temps, lorsque mon Dieu fait la création, les anges eux-mêmes sont dans une forme d'espace-temps et c'est là que réside la liberté de choisir d'être les enfants de Dieu ou de ne pas l'être, c'est-à-dire le bien et le mal. Et dans la vie, c'est notre forme de liberté a été permise par Dieu à cause de ce que le monde se meurt tout le temps et que c'est dans cet espace-temps où la liberté s'inscrit et Dieu a voulu cette liberté. Donc quand les gens se sont approchés de Jésus, ils voient ces fenêtres de l'espace-temps qui sont les témoignages de la vie éternelle que le Christ promet à ceux qui le suivent. Donc le sommet du miracle, évidemment, c'est la résurrection du Christ après sa mort. Cette mort effrayante, si on veut vraiment méditer sur la passion du Christ et même toute la vie du Christ, qui est un effort permanent pour proclamer et te témoigner de ce qu'il est la parole de Dieu, c'est un effort permanent qui passe par une forme de souffrance qui entre dans l'espace-temps et qui est pour nous le témoignage que nous avons à surmonter cet espace-temps avec l'espérance toujours de Dieu dans notre cœur et l'espérance toujours que dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est l'enjeu de notre vie éternelle qui se joue, c'est-à-dire certains choisissent dans l'espace-temps avec la liberté que Dieu a donnée et qui est permise dans l'espace-temps, sinon nous serions de petits toutous projetés dans l'éternité Et le bon Dieu a voulu que nous le choisissions comme Père et que nous qui sommes sortis de lui, eh bien que nous retournions dans le sein du Père, comme Jésus nous l'a dit, pour vivre éternellement avec Dieu. Donc Saint Paul nous le dit bien aujourd'hui. Ceux qui vivent un exemple, il y en a beaucoup qui vivent, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ et ils vivent comme si le temps était éternel et que nous sommes faits, nous, pour vivre avec l'ambition et la promesse de la vie éternelle. Donc tout ce que nous vivons dans le temps, nous sommes dans le monde. Jésus nous l'a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde, c'est la promesse chrétienne de pas simplement, ce n'est pas une simple philosophie pour vivre dans le monde d'aujourd'hui, c'est la racine profonde de l'existence elle-même de chacun d'entre nous et du monde, qui est que Dieu rassemble un troupeau qui sera près de Dieu et un troupeau qui sera dans la ténèbre et qui restera pour l'éternité. Nous ne connaissons pas, évidemment, ne pourrons jamais juger d'une âme. C'est Dieu seul qui est le vrai juge, Jésus-Christ lui-même est le vrai juge des âmes. Mais nous faisons l'effort de proclamer cette parole et nous sommes toujours fidèles à notre sainte religion à cause de ce qu'elle a été vraiment, la religion du miracle. Et aujourd'hui, nous avons ces deux beaux miracles qui nous sont racontés par saint Matthieu et il faut nous-mêmes vivre cette espérance. Mais nous pouvons demander toujours, demandez, vous recevrez, frappez, on vous ouvrira. Et parfois, il faut parfois insister un peu auprès du bon Dieu pour obtenir des grâces. C'est dans la prière que ça se fait, dans l'espérance toujours que tout ce qui nous arrive souvent dans la sphère du bon Dieu, c'est toujours pour notre bien. Même les choses qui parfois, quand on a l'impression qu'on n'est pas exaucé pour certaines choses, ou que des choses arrivent qui nous contrarient, parfois elles sont, si on les regarde bien, elles sont faites toujours pour, spirituellement, pour notre bien. Voilà. Essayons de rester toujours fidèles au Seigneur et essayons de toujours de faire cet effort de la pureté dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire chaque jour bâtir une armure avec la grâce de Dieu qui permet de sortir des ornières que le monde pose devant nous, que le diable pose devant nous, et ainsi nous aurons toujours l'aide du ciel pour le salut éternel, comme on le dit au début de la liturgie magnifique, hein, donc donne-nous le salut, c'est ce que nous demandons, et toute prière qui s'adresse à Dieu, elle passe par le Christ certainement, mais elle s'adresse à Dieu avant tout, et souvent il faut que nous ayons conscience de qui est Dieu, c'est-à-dire philosophiquement Dieu est une chose impossible, on ne peut pas imaginer que en dehors de la création et au-delà de la création, il y a un Dieu qui soit là et qui est depuis toute éternité. Comment c'est possible? C'est impossible philosophiquement, mais c'est possible par là, ce qui nous a été donné en témoignage. Le sens où l'être existe, et c'est important, nous sommes dans l'être, donc si l'être a une source et que la seule issue, c'est que cette parole qui nous est donnée et qui alimente notre conscience, est un sens, si sinon le monde n'a pas de sens, et c'est vraiment un point d'interrogation trop cruel, le bon Dieu a utilisé cette conscience qu'il nous a donnée et la parole pour donner le sens de ce qui philosophiquement reste impossible. Mais hélas, nous devons, avec joie, nous constatons que si nous ne choisissons pas la solution de l'existence de Dieu et de sa parole qui nous est donnée à un moment, le monde perd son sens et c'est très affligeant, évidemment. Donc il faut toujours aller vers le positif et le Seigneur, pour montrer ce positif, a fait des miracles. Ces miracles, saint Matthieu nous en témoigne, deux magnifiques aujourd'hui, la résurrection de cet enfant et ensuite la perspective de sa propre résurrection qui est le sommet. Nous, un mort se réveille lui-même, ça c'est très 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 difficile. Et c'est que Jésus-Christ qui a été capable de le faire, et donc voilà pourquoi nous suivons notre Seigneur Jésus depuis 20 siècles, espérant toujours qu'il va revenir et qu'il fera de ce monde périssable des âmes qui vont se mettre dans la vie éternelle avec l'amour de Dieu qui est proposé depuis le départ, parce que le projet de Dieu c'est un projet d'amour. L'homme fait sa liberté dans cet espace-temps et Dieu, à ce moment-là, devant la difficulté pour l'homme de choisir spontanément la liberté qui conduit vers Dieu, Dieu a envoyé les prophètes, il a envoyé l'aide de la grâce, et la grâce, elle s'est incarnée, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est la véritable source de grâce pour tout ce qui vit, comme le dit si magnifiquement le prologue de Saint Jean. C'est lui qui est vraiment la source et de la grâce, et il est la grâce. Donc, nous pouvons avoir la certitude que la moindre de nos pensées, le Seigneur la voit, l'assiste, et quand nous demandons au Seigneur de l'aide, mais le Seigneur est toujours là. Donc, nous ne sommes jamais seuls en réalité, surtout si nous demeurons dans la sphère de la grâce. Nous ne connaissons pas la forme de solitude, même si des gens ont passé leur vie dans une forme de solitude mondaine. Je pensais au père de Charbel, puisque hier je suis allé poser une image du père Charbel sous l'oreiller d'une âme mourante à la fois. Le père Charbel, il a vécu seul. Un vrai ermite. Une cabane de 5-6 mètres carrés, un plumard posé sur le sol, une ou deux icônes et une petite bougie. Et toute sa vie a été faite comme ça, dans le silence. La modestie n'est jamais sortie pour faire même d'un vrai enseignement. Le vrai enseignement, ça a été que sa solitude a été habité par le Christ. Donc il s'est mis lui-même dans une prière permanente avec le Christ. Il a pris conscience de ce que le Christ était avec lui. Et au bout d'un moment, ce qui est le cas de la plupart des mystiques, parce que souvent nous disons, Seigneur, moi j'étais en voiture hier, j'ai fait 8 heures de voiture, j'avais quand même un sacrement dans la voiture, donc je me suis dit à un moment, Seigneur pourrait me dire un mot. Oui, mais les mystiques, ils s'enferment dans une solitude qui dure très longtemps, et au bout d'un moment, quand ils sont vraiment dans la conscience de la proximité du Christ, le Christ finit par parler. Ce n'est pas au bout de 4 heures de voiture que le Seigneur forcément se met à intervenir, mais notre vie chrétienne, dans l'espace-temps, c'est vivre avec cette conscience que le Seigneur est à côté, qu'il est dans la sainte hostie que l'on transporte pour un malade. Le Seigneur est là quand même. Donc le Seigneur n'intervient pas pour dire salut, il fait un peu chaud dans ta voiture ou arrête de fumer. Le Seigneur, il est dans le silence et il est dans le silence des mystiques comme ça qui vivent dans une sorte de solitude pour le monde et qui en réalité vivent vraiment avec le Christ. Et c'est après toujours la religion du miracle que les 30 piles miracles qu'on estime qu'a fait le père Charbel, une solitude absolue. En réalité, il épousait le monde et de l'autre côté, au ciel, il continue dans la communion des saints à alimenter une forme de récompense que Dieu fait avec cette huile qui sort de son corps dans son tombeau et qui fait les miracles. Et ceux qu'il invoque sont souvent exaucés. C'est le grand thaumaturge qui a vécu dans cette solitude avec Jésus dans une cabane pendant des dizaines d'années. Alors, aux yeux du monde, ça paraît folie. Non. En réalité, aux yeux de la vie chrétienne, ce sont ceux qui, en réalité, deviennent les intimes du Christ. Et ils sont toujours présents par la pensée avec le Christ. Et au bout d'un moment, quand ils sont vraiment sincères et qu'ils vivent vraiment avec lui, ben le Seigneur finit par s'adresser à eux. Ils ont une vie mystique intense, comme les grands mystiques que l'on connaît, qui revivent souvent, parfois même dans des grandes douleurs, comme le Padre Pio, ou bien Marie-Julie de Bretagne, ou Thérèse de Man vivent une vie très proche du Christ, et le Christ se manifeste. Mais pour les gens ordinaires, ben nous devons nous en tenir à l'espace de temps qui nous est donné, et on voit que dans l'épître de saint Paul Philippe, et ben il parle de gens que l'on connaît un peu, saint Tiquet, qui sont Clément, qui sont les premiers chrétiens qui travaillaient à la vigne du Christ. Ils n'étaient pas nécessaires. Saint Paul était tombé du cheval, le Seigneur s'était adressé comme la foudre pour l'appeler, mais les autres, ils ont bossé comme nous devons bosser, avec l'espérance, toujours dans l'espérance chrétienne, que le Seigneur nous accompagne et que même s'il ne s'adresse pas à nous et s'il ne rompt pas le lien qui se trouve à travers la foi pour intervenir directement dans un discours particulier avec nous, il y a un grand mérite aussi à travailler sans avoir l'assurance que le Seigneur est physiquement est présent, et on vit dans la foi, et c'est comme ça que la plupart des chrétiens le vivent dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, et que certains saints aussi ont été près du Seigneur, et ils ont vécu en dehors de l'espace, la brisure de l'espace-temps qui se présente lorsque le Christ ressuscite une petite fille, là il voit intervenir le ciel. La fidélité dont nous parle saint Paul et dont il parle aujourd'hui, cette grande fidélité qu'il envoie aux chrétiens de Philippe, c'est de recevoir le témoignage de la vie chrétienne par les apôtres et par la parole de Dieu, et par les saints évidemment, et de docilement nous plier dans l'espace-temps à ce que le Seigneur est toujours là. C'est dans la foi que nous vivons, c'est un grand mérite aussi de travailler à la vigne du Seigneur dans la foi de ce côté-là aussi. Donc c'est, rassurons-nous, si le Seigneur ne nous interpelle pas de son tabernacle, ce que nous aimerions bien de temps en temps. Non, c'est le Seigneur nous maintient dans la foi. Il y a un grand mérite à suivre le Christ dans la foi. Le Seigneur nous le dit à plusieurs passages. Hein, c'est la foi qui donne un grand mérite à la vie chrétienne. Donc, vivons cette foi et préparons-nous nous-mêmes quand on voit. Hier, je suis allé voir cette dame qui est appelée Marie de Fatima, donc c'était quand même particulier de porter les derniers sacrements, une personne très active et charmante, et voyez, elle finit sa vie et elle quitte l'espace-temps, mais son âme n'est qu'endormie, et elle est endormie en réalité, son âme va vers Dieu, et nous prions dans cette sainte liturgie de faire grâce dans la misère, de porter la miséricorde à Dieu qui est le juge des choses et qui sait lui-même ce dont les âmes ont besoin et la manière dont les âmes se présentent devant lui avec indulgence, parce que le Christ est mort pour cette indulgence. Donc nous appliquons les mérites de l'Église, c'est-à-dire les mérites de ceux qui se tournent vers le Christ aujourd'hui, de ces millions de gens qui aujourd'hui se tournent en même temps que nous, qui sont l'Église mystique du Christ, et tous ces gens qui dans le monde, dans les églises apostoliques, en tout cas communient aujourd'hui au corps de, au sang du Christ. Donc c'est magnifique. Et nous prions, si vous le voulez bien, pour Marie de Fatima, qui va s'éteindre dans les heures qui viennent. Merci beaucoup. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.